RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'est une ville qui fait figure de modèle de développement de l'Inde moderne. Bangalore, c'est la Silicon Valley indienne, l'une des cités les plus dynamiques du sous-continent grâce à ses milliers d'entreprises informatiques. Mais cette explosion économique a entraîné une croissance démographique excessive et anarchique. La population de Bangalore dépasse aujourd'hui les 11 millions d'habitants. Le béton a dévoré ses parcs, ses lacs et les nappes phréatiques sont en train de s'assécher. Dans certains quartiers, il faut aller chercher l'eau à plus de 600 mètres de profondeur. Et comme l'eau souterraine ne suffit plus, les autorités pompent ce précieux liquide dans une rivière située à plus de 100 km de la ville. Les eaux usées, quant à elles, sont en grande partie relâchées dans les lacs sans être traitées. Et ces rejets toxiques créent maintenant une situation apocalyptique. Certains lacs prennent feu à Bangalore. Bangalore, la ville qui épuise son eau. Grand reportage de notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi.
Nous sommes sur la rive du lac de Belandur, qui est l'un des plus grands lacs de Bangalore. Juste devant nous, l'eau s'écoule en cascade, avec force, par un étroit passage. Et cela remue les eaux et fait apparaître quelque chose de très suspect, une épaisse mousse blanche qui recouvre une cinquantaine de mètres carrés de ce lac. C'est un spectacle assez surréaliste, car on dirait qu'une couche de neige s'est posée ici, dans cette cité tropicale du sud de l'Inde. Alors avec nous se trouve Ishwarappa, qui est un militant du mouvement populaire pour le droit à l'eau, une association de Bangalore.
This is like include soap water.
Toute cette mousse est créée par les détergents et les produits chimiques qui sont relâchés dans le lac. Les usines renvoient également leurs eaux usées. Ce lac est énorme, donc il récolte tous ces rejets toxiques et cela vient s'accumuler ici, à son embouchure.
Les autorités municipales ont élevé des grilles tout autour de cette partie du lac pour empêcher que cette mousse ne déborde sur la route. Des jets d'eau aspergent également en permanence ce réservoir pour diluer cette mousse et la pousser sous un pont. Mais Ishwarappa le confirme avec un regard dépité, cela ne sert pas à grand chose.
Nous sommes en période normale, il y a de la mousse, mais elle n'est pas très haute. Par contre, à la saison des pluies, cela devient un grand problème, car cette mousse se transforme en une vraie montagne qui s'élève et passe sur la route, et on ne peut plus circuler.
Cette mousse toxique et légère sort donc de son lit et s'envole vers la route, mais aussi vers les immeubles voisins. Et cela a commencé à entraîner de sérieux problèmes de santé dans les environs. Nous entrons dans l'une de ces résidences qui est littéralement collée à ce lac. En bas de l'immeuble de 4 étages, nous retrouvons une vieille dame dans la cour. Pournima, la cinquantaine, a toujours vécu ici et elle a vu ce problème grandir.
Quand j'étais petite, tout allait bien ici. Et puis, il y a environ 10-12 ans, cette mousse a commencé à apparaître. Hier, par exemple, il a plu et toute cette mousse est arrivée ici, dans le jardin et jusqu'à notre porte. Dans ce cas, on ne peut plus travailler à l'extérieur ou étendre le linge. Cette mousse ressemble à du savon, sauf qu'elle nous irrite la peau quand on la touche. Et il y a cette odeur persistante, ça donne un peu mal à la tête. Puis ça fait venir les moustiques de la dengue. J'aimerais bien partir d'ici, mais je ne peux pas me le permettre. Vous savez, ici, le loyer n'est pas cher.
Pendant l'été, un événement encore plus étrange survient depuis quelques années. Une partie du lac de Belandur prend feu. Ishwarappa nous explique.
C'est une sorte d'algue séchée qui prend feu pendant la saison chaude.
En plein milieu du lac.
Oui, en plein milieu du lac, de ce côté, là-bas. Certains disent que ce sont des feux spontanés, d'autres que certains mettent feu aux algues. Personne ne sait vraiment comment ces incendies démarrent sur les lacs.
Une personne suit depuis longtemps cette pollution dramatique des bassins de Bangalore, c'est le professeur T.V. Ramachandra. Il est le directeur du Centre pour les sciences écologiques installé dans le prestigieux Institut indien des sciences. Et depuis une vingtaine d'années, il effectue des relevés pour comprendre la composition de cette pollution et ses effets. Il confirme d'abord ce que ses militants et résidents observent.
Les autorités affirment qu'elles ont les capacités de traiter les deux tiers des eaux usées de la ville, mais mes relevés montrent que seulement un tiers de ces rejets sont traités. Le reste est envoyé directement dans ces lacs. Ces eaux non traitées contiennent de l'azote, des nitrates et du phosphate. Le phosphate vient des détergents que nous utilisons pour laver nos habits. Au moment de la mousson, les eaux sont remuées et cela relâche tous ces éléments qui sont tombés au fond, un peu comme quand on met du détergent au fond d'un seau d'eau et que l'on remue. J'ai remarqué l'apparition de cette mousse en 2000. À l'époque, elle faisait 60 cm de haut. Aujourd'hui, elle peut monter plus haut que deux camions mis l'un sur l'autre, ce qui fait plus de 6 mètres de haut. Cela prouve la mauvaise gestion du lac par les autorités.
Ces eaux usées diffusent de grandes quantités de méthane, un gaz très inflammable. Le tout peut s'enflammer au contact d'algues et de plantes de surface, ce qui crée ces feux spontanés. L'impact de cette pollution sur la santé des habitants de Bangalore s'avère dramatique, et pas seulement pour les riverains du lac, comme l'explique le professeur Ramachandra.
Les lacs occupent une fonction importante de recharge des nappes phréatiques. Et quand ils sont pollués, les puits des alentours sont aussi contaminés. Or, 45% de la population de Bangalore dépend de ces eaux souterraines pour vivre. Nous avons ainsi analysé les eaux de ces puits et nous y avons trouvé des hauts niveaux de nitrates ainsi que des métaux lourds. Des gens pêchent aussi des poissons et font pousser des légumes en aval de ces lacs. Nous avons étudié des échantillons de légumes verts, de radis et de poissons. Et nous y avons décelé des niveaux élevés de chromium 6, cadmium et cuivre. Cette pollution a un effet direct sur la santé des gens. Ils souffrent de cancer ainsi que d'insuffisance rénale. Il y a 10 ans, il y avait une personne souffrant d'insuffisance rénale pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, c'est une pour 5 000. La prévalence a donc été multipliée par 20 en 10 ans. Et cette intoxication continue.
La pollution des nappes phréatiques ne vient qu'empirer une situation déjà grave. La ville de Bangalore est en train d'épuiser toutes ses ressources en eau à cause d'une expansion démentielle. La population de Bangalore a été multipliée par 3 en 30 ans pour atteindre aujourd'hui plus de 11 millions d'habitants. Une croissance qui s'est accélérée depuis la révolution des nouvelles technologies des années 90. À présent, la population de la ville s'accroît de 400 000 personnes chaque année. Pour accueillir ces nouveaux ingénieurs, chercheurs ou femmes de ménage, on construit à la verticale. Des immeubles de 20 ou 30 étages sont en train de pousser un peu partout. La disparition des lacs a réduit les sources en eau potable. Les immeubles puisent donc dans les nappes phréatiques, de plus en plus profonds. Dans l'est de Bangalore, il faut maintenant aller chercher cet or bleu à plus de 600 mètres de profondeur. Dans les bidonvilles, on ne bénéficie pas d'autant d'eau courante. Nous sommes ici à Jauli Mohalla, un quartier de recycleurs du centre de la ville. Ici, les gens s'empilent dans de petites maisons en briques de 5 mètres carrés, espacées par des allées d'à peine 2 mètres de large. Pour boire, ces milliers d'habitants doivent marcher loin, comme l'explique une résidente, Jagadishwari.
Je pars à 7 heures du matin et je marche 2 km pour aller chercher de l'eau. Là-bas, il y a une alimentation en eau qui vient depuis le fleuve Kaveri. Je dépose mes récipients et j'attends pendant au moins 4 heures. Généralement, je reviens à 1 heure de l'après-midi. Nous faisons cela tous les jours. Nous avons obtenu du député local qu'il creuse un puits dans notre bidonville. Nous avons de l'eau une partie de la journée maintenant, mais elle est très dure. Nous l'utilisons seulement pour nettoyer les habits et la vaisselle. Quand nous la buvons, nous tombons malades.
Le fleuve Kaveri, dont parle la résidente de ce bidonville, est la ressource la plus précieuse pour Bangalore et sa région. C'est un cours d'eau qui passe à environ 100 km au sud-ouest de la ville et que les autorités ont commencé à pomper depuis les années 70, justement car les sources d'eau traditionnelles de la ville, à savoir ses lacs, étaient en train d'être recouverts ou pollués. Aujourd'hui, plus des 3/4 de l'eau potable de Bangalore vient de ce fleuve Kaveri. Elle est transportée grâce à 5 énormes tuyaux. Bangalore pompe ainsi 1,4 milliard de litres par jour. Un besoin qui ne cesse de grandir et retire autant d'eau pour l'agriculture de tout cet état du Karnataka. Dans la campagne du Karnataka, au sud de Bangalore, le village de Kurati Vasur aimerait bien bénéficier un peu de cette eau du Kaveri. Ce hameau se situe à moins de 30 km de ce fleuve précieux, mais son millier d'habitants n'en reçoit pas une goutte. Pourtant, cela pourrait leur sauver la vie, car aujourd'hui, ils dépendent tous de la pluie pour arroser leurs champs de millet ou de maïs. Et dernièrement, ces précipitations ont été très irrégulières, ce qui a obligé la plupart des villageois à partir. Une des résidentes et agricultrices, Jayama, nous raconte.
Pendant 2 années de suite, nous n'avons quasiment pas reçu de pluie dans la région. Nous ne pouvions plus rien faire pousser, nous allions mourir de faim. Nous sommes donc partis. Certains sont allés travailler à Bangalore, d'autres dans les états voisins pour récolter le café ou charger des pierres dans les carrières. Les 3/4 des villageois ont ainsi migré car nous n'avions plus d'eau. Cela fait seulement quelques mois que certains d'entre nous sont revenus car il a bien plu en décembre dernier. Si on nous fournissait de l'eau du fleuve Kaveri, nous n'aurions plus à faire cela.
Ces villageois ont pu partir sereinement car ils n'avaient pas investi beaucoup d'argent dans leurs champs. Mais un peu plus au nord, dans le district de Mandya, les paysans ont de plus grandes exploitations. Ils empruntent généralement de grosses sommes d'argent pour acheter de l'engrais et faire pousser de la canne à sucre qui requiert beaucoup d'eau. Cette récente sécheresse a donc été terrible pour eux car ils ont perdu leur récolte et n'ont pas pu rembourser leurs dettes. Résultat, selon les autorités, plus de 2500 agriculteurs se sont suicidés entre 2013 et 2017 dans ce seul district de Mandya pour des raisons directement liées à ce manque en eau. Le partage des eaux du fleuve Kaveri est devenu un enjeu politique majeur et la source d'une lutte fratricide entre cet état du Karnataka, où naît le fleuve, et celui voisin du Tamil Nadu en aval. Les deux régions se disputent cette ressource depuis des décennies et la Cour suprême est régulièrement appelée à la rescousse pour fixer les nouvelles règles de partage. En février, son dernier jugement augmente la part attribuée au Karnataka sous prétexte que l'alimentation en eau de Bangalore est prioritaire. Mais dans cette cité, certains dénoncent la surexploitation de ce fleuve par les autorités municipales. Pour Kshitish Ours, responsable du mouvement populaire pour le droit à l'eau, l'intérêt financier a primé sur la logique environnementale.
Il pleut en assez grande quantité à Bangalore et les autorités pourraient décider que la ville dépendrait de l'eau qui tombe sur la ville et avoir recours à celle de la rivière en cas de besoin. Mais c'est l'inverse qui se passe. D'abord, rien n'a été fait pour empêcher l'empiètement illégal des lacs. Il est même extrêmement difficile de déposer une plainte pour de telles violations. Du coup, d'énormes tuyaux sont construits pour faire venir l'eau de la rivière. Cela entraîne des investissements de milliards de dollars. Et c'est un fait établi qu'une partie de ces investissements est détournée par les responsables. Il y a donc un très grand intérêt à créer des crises hydriques dans des grandes villes comme Bangalore pour lancer des investissements plutôt que d'utiliser l'eau qui tombe sur la ville.
Une autorité de développement des lacs a été créée il y a une 20aine d'années, mais elle dispose de très peu de moyens financiers et légaux pour empêcher les empiétements des promoteurs immobiliers sur les lacs. Le gouvernement du Karnataka vient donc d'approuver la construction d'un 6e tuyau pour augmenter la quantité d'eau qui arrive du fleuve Kaveri. Le projet coûtera plus de 560 millions d'euros, dont l'essentiel est obtenu grâce à un prêt de l'Agence japonaise de développement. Tushar Girinath, le directeur de l'autorité de Bangalore pour l'approvisionnement en eau, soutient toutefois que de nombreux efforts sont faits pour récupérer les eaux de pluie et recycler celles usées.
Depuis 2008, tous les nouveaux immeubles qui occupent plus de 110 mètres carrés de terrain doivent avoir un système de récupération des eaux de pluie, faute de quoi des amendes leur sont imposées. Aujourd'hui, il y a 100 000 bâtiments qui ont installé ces systèmes et 100 000 sont en infraction. La moitié respecte donc cette norme. En plus de cela, depuis 2016, les nouveaux bâtiments de plus de 20 étages doivent avoir un système local de retraitement des eaux usées. Ceux installés ne sont pas encore très performants et les autorités mettent la pression pour l'améliorer. Si tout cela est fait, nous augmenterons la quantité d'eau courante disponible. Les besoins d'une personne sont de 135 litres par jour. Nous pourrions en fournir 100 par de l'eau fraîche et les 35 restants viendraient du recyclage des eaux usées et de la récupération des eaux de pluie.
Monsieur Girinath refuse de croire, comme l'avancent certains scientifiques et militants écologistes, que Bangalore peut devenir autosuffisante en eau. Le problème de la ville, dit-il, c'est qu'elle n'a pas de rivière.
Toutes les grandes villes dépendent d'une source d'eau. Si vous n'aménagez pas de barrages ou de rivières, une ville ne peut pas être autosuffisante en se contentant des eaux de pluie. Si Bangalore avait une rivière, la situation serait différente. Mais maintenant, nous devons dépendre d'un autre fleuve, qui est le Kaveri. Et celui-ci continuera à représenter une source majeure d'eau pour Bangalore. Bien sûr, cela ne nous empêchera pas de chercher à en utiliser d'autres.
Certains ont cependant prouvé qu'il était possible d'être autosuffisant en eau à Bangalore, au moins à un niveau local. Le complexe résidentiel Rainbow, composé d'environ 270 maisons et de plus de 1000 habitants, n'a en effet pas eu besoin d'importer de l'eau de rivière ou de faire venir de camions-citernes de l'extérieur, et ceci depuis 7 ans. Ces résidents de la proche banlieue sud-est de Bangalore, à deux pas du quartier des nouvelles technologies, savaient que l'eau municipale mettrait beaucoup de temps à arriver jusqu'à eux. Ils ont donc pris les devants et ont creusé des puits, tiré des tuyaux et installé tout un système ingénieux pour capter les eaux de pluie et s'assurer qu'elles repartent dans la nappe phréatique. K.P. Singh, ancien ingénieur en télécommunications, est à l'origine de ce projet.
Voici l'un des puits qui récupère l'eau des pluies. Il fait 2 mètres de diamètre et 12 mètres de profondeur. À l'intérieur des maisons, il y en a de plus petits qui captent l'eau des gouttières. C'est une structure obligatoire pour chaque maison. Et ces puits sont profonds et donc ils nous permettent de renvoyer rapidement toute l'eau que nous recevons dans les sols. Elle ne reste pas dans les puits. Donc, s'il pleut de nouveau 2 jours plus tard, le puits peut recevoir encore de l'eau.
Comment vous capturez l'eau qui tombe sur la route ?
Comme la route est en pente légère, elle s'écoule vers ces rigoles qui contiennent des tuyaux. Habituellement, je mets ces pierres pour empêcher que les feuilles bouchent les tuyaux. Près de 30% du complexe résidentiel est composé de routes. Donc, l'eau qui y tombe est précieuse.
Combien de puits vous avez comme ça ?
Nous avons 5 grands puits ouverts, situés à 5 lieux stratégiques où beaucoup de pluie tombe, et 25 plus petits qui sont répartis tous les 15 mètres.
Un des résidents nous voit passer et nous ouvre sa porte. Joe Kamicheril habite ici depuis 16 ans et a donc observé tous ces changements. Il est aujourd'hui très content et tient à nous montrer son installation.
Vous voyez cette gouttière là ? Eh bien, il y en a des deux côtés du toit et toute cette eau est récoltée et elle arrive dans ce réservoir. Nous en avons plusieurs, ils peuvent contenir 13 000 litres d'eau en tout. Et quand ils sont pleins, l'eau qui déborde est renvoyée dans les puits pour recharger la nappe phréatique. Donc, pas une goutte n'est perdue. Et pour notre consommation, nous prenons l'eau de pluie qui est comme de l'eau distillée, et nous la mélangeons avec l'eau du puits afin de lui rajouter des minéraux. Ensuite, nous la filtrons pour éliminer toutes les particules et nous pouvons la boire. Non, vraiment, nous sommes ravis de ce système.
Ce système a permis de recharger la nappe phréatique de manière extraordinaire. Il y a 7 ans, avant l'installation de ce système, les résidents devaient aller chercher leur eau à plus de 350 mètres de profondeur. À présent, elle se trouve à environ 45 mètres sous le sol. Tout cela par une simple utilisation intelligente des eaux de pluie.
Nous avons calculé que si nous récupérons toute l'eau qui tombe sur les 34 hectares de notre complexe résidentiel, nous aurons au moins 2 fois plus d'eau que ce dont nous avons besoin. Donc, nous pouvons récolter la moitié seulement de cela, et ça suffit. Cela nous offre un vrai sentiment de paix. Pendant les 6 mois de la saison des pluies, certains résidents ne se servent même plus de l'eau commune de la nappe phréatique. Ils dépendent uniquement de leurs propres réserves.
Ce modèle de développement durable coûte 7 fois moins cher à ses résidents que s'ils devaient recourir au service des camions-citernes qui alimentent les bâtiments voisins. Aujourd'hui, cette résidence de Rainbow Colony est devenue un modèle à Bangalore pour ceux qui veulent reprendre en main la gestion de leur eau. Bangalore, la ville épuise son eau. C'était un grand reportage de Sébastien Farsi, réalisation Eva Moschinski.